Denise Bombardier, alors vous êtes écrivain, journaliste, et également vous avez collaboré avec la télévision aussi.
Ah bah oui, j'étais 35 ans à la télévision. J'ai été la première femme à faire l'émission politique de la télévision de Radio-Canada, service public. Donc c'était moi à qui on a confié toutes les grandes entrevues politiques à l'époque. Donc c'était pas évident. Ça veut dire qu'au propre, comme au figuré, j'ai pris la place des hommes, puisqu'il n'y avait eu que des hommes à qui on avait confié cela avant.
Vous avez même rencontré nos présidents, hein, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand.
Oui, et des premiers ministres de France. Michel Rocard, entre autres, que j'ai connu personnellement. Puis j'ai interviewé, des personnalités internationales.
Alors, il n'y a pas que le Québec, hein. Vous avez également collaboré avec La 5 en 91, hein. En France. La 5, la chaîne La 5.
Ah, La 5, oui, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que La 5 a déposé le bilan au bout de 2 mois, je crois. J'ai pas eu de chance à ce moment-là. Mais oui, j'avais fait une émission qui s'appelait À boulet rouge. Évidemment, il s'était inspiré de mon nom, Bombardier, forcément. C'était des débats, et je venais deux fois par mois pour enregistrer l'émission et tout. Mais enfin, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une chaîne qui appartenait à Lagardère à l'époque. Et puis au bout de 2 mois, je sais pas, ils ont vu que c'était pas rentable. Ils auraient dû le voir avant, les pauvres. Et de toute façon, j'ai quand même, moi-même, j'ai perdu des sous parce que j'ai pas été payé pour une partie de mes prestations. Pas grave.
Bon, l'aventure, alors.
Ouais, bah oui, mais moi, je faisais mon émission à Montréal. J'étais à l'antenne à Montréal et tout. C'était ma contribution à la francophonie qui était pas très payante, voilà.
Alors, vous avez fait un essai avec un titre assez explicite, hein, Lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde.
Oui, mais ça a très très bien marché en plus. Et c'est parce que j'aime beaucoup la France. C'est une sorte d'amour déçu, quoi. Et il faut beaucoup aimer la France pour pouvoir la critiquer. Autrement, c'est insupportable. Quelqu'un qui n'aime pas la France et qui critiquerait la France dans un essai comme ça et qui n'aime pas la France, il faudrait aller le reconduire sur les frontières. Mais c'est au fond, c'est parce que j'ai une image presque. J'avais une image, parce que maintenant la France a tellement changé. Mais j'avais une image très magnifiée de la France, enfin, le pays de mes ancêtres, le pays de mon ancêtre Bombardier, qui est né dans ce qui est maintenant un arrondissement de Lille, ça s'appelle Saint-Sauveur, où je suis allé d'ailleurs l'an dernier, et alors il ne reste plus rien, il ne reste que les murs de l'église où mon ancêtre a été baptisé. Mais l'église n'existe plus, mais il y a un très beau mur là. C'est sûr que ma critique des Français, c'était une critique faite avec beaucoup de tendresse, en même temps, mais avec précision et sans complaisance. Ce que je reproche aux Français, c'est de ne pas être à la hauteur de la réputation de leur pays. Mais maintenant, je n'écrirai plus la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas?
Alors, comment vous voyez la France maintenant, actuellement, avec la politique justement qui s'en mêle en ce moment, avec les élections présidentielles qui se préparent?
La politique française n'intéresse plus personne à l'étranger. On m'a posé la question sur TV5 là, il y a quelques jours. Je veux dire, on est quelques-uns au Québec à s'intéresser toujours à la France, mais autrement, la façon dont la politique a évolué. Et puis là, je trouve que c'est la pire période, là. Je veux dire, là, d'abord, la gauche n'a pas besoin d'ennemis, n'a pas besoin d'adversaires, en tout cas, puisqu'ils sont tous, ils se tirent tous les uns sur les autres. On voit bien que c'est l'éclatement. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer, par exemple. Et d'autant plus, je vais vous dire, que maintenant, avec le nouveau phénomène du populisme, je veux dire, quand les journalistes se mettent à faire des projections, ils ont tendance à prendre leur désir pour des réalités. Eh ben, on se trompe. Et comme les sondeurs, d'ailleurs. Je veux dire, on peut pas savoir les résultats du vote en France. Qui peut dire que Marine Le Pen ne sera pas élue? Les gens disent non, elle va pas être élue. Non, non, mais on disait la même chose pour Trump aux États-Unis. Depuis un an, parce que je vis aux États-Unis l'hiver, moi. Donc, je vis avec des Américains. Je me suis rendu compte que le phénomène était là pour durer. Et j'ai compris ça il y a un an, finalement. Et je l'écris, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais c'est pas parce que j'étais pour Trump. Il faut être capable de dégager la perception de Trump. Et voilà bien le problème. Qu'on va voir, c'est que si toute la presse occidentale devient militante contre Trump, on pourra plus expliquer la politique américaine à nos compatriotes. Parce que c'est vrai que c'est déconcertant. Qu'est-ce qu'on aurait pensé que Trump, il y a 2 jours, aurait signé seulement entouré d'hommes, c'était une imaginiste, aurait signé un décret pour annuler l'aide américaine aux ONG qui financent les avortements dans les pays en développement. On n'aurait pas pensé que ça pouvait se faire comme ça. On n'aurait pas pensé que Trump, il y a 7 hommes dans son cabinet. Enfin, là, on parle de ce qui concerne les rapports hommes-femmes, mais dans un pays où l'égalité, quand même, est prônée. Et pour ne pas parler du reste, on n'aurait pas pensé que quelqu'un parle sans filtre comme ça, qui peut dire devant la CIA qui applaudit, ça s'est arrivé cette semaine, que les journalistes sont probablement les gens les plus malhonnêtes de la Terre. On ne peut pas imaginez ça, vous mettez ça dans un film, vous dire c'est un crackpot celui-là. Et ben, mais en fait, il n'est pas. Si les gens pensent qu'il n'est pas intelligent et qu'il ne va pas gouverner, et ben, ils se trompent. Et puis au fond, il faut. Enfin, c'est pas qu'un extrême droite, Trump. Il ne faut pas confondre Trump avec les fascistes des mouvements d'extrême droite en Europe. C'est pas la même chose.
Il business surtout lui. Hein.
Sur le plan économique, et c'est pas, il n'est pas d'extrême droite sur le plan religieux. Là, évidemment qu'il a une partie de son électorat qui fait partie, qui l'a appuyé, qui est contre l'avortement sur cette question-là, mais il ne va pas changer l'Amérique. Je crois qu'il est encore, c'est quelqu'un qui va, il n'aura pas le choix de toute façon. Je vais vous dire une chose. Ce qui peut nous rassurer, c'est que les institutions américaines, c'est les États-Unis, c'est encore un pays puissant, très puissant, et les institutions américaines en ont vu d'autres. Et c'est ça, il faut donc se mettre en distance. Nous, les journalistes, je ne parle pas des gens, mais parce qu'autrement, on ne va pas bien comprendre ce qui va se passer. Et il n'y aura pas de guerre civile aux États-Unis. Ils en ont connu une, ils en ont eu une. Et c'est pas comme ça. Les institutions ont la possibilité de corriger si jamais il y a une sorte de dérive de sa part. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une sorte de dérive.